Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires de femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr, de femmes.
Souvent, travailler dans la recherche, c'est non seulement étudier un sujet en détail, mais aussi transmettre ses connaissances.
Dans cet épisode, on retrouve Charlotte Pelletier, une jeune femme passionnée par son métier d'enseignante-chercheuse en informatique. Elle travaille à Vannes, à l'Université de Bretagne-Sud, dans une équipe qui utilise des méthodes informatiques pour décrypter des images satellites afin de mieux comprendre notre environnement.
Par exemple, elle suit au fil du temps l'évolution des cultures, la façon dont les agriculteurs utilisent leur sol, avec quel type de plantation et avec quelles pratiques. Charlotte est à 1000 km du cliché du chercheur aux cheveux gris enfermé dans sa tour d'ivoire ou de l'informaticienne geek qui reste tout seul devant son ordi et étonne parfois quand elle parle de son métier.
Des fois, c'est plus la réaction quand je dis que je suis enseignante-chercheuse en informatique. Là, c'est... des fois, j'ai les mâchoires qui peuvent se décrocher un peu. Alors après, j'essaye d'expliquer en fait ce qu'est mon métier et ce qu'est l'informatique aussi de manière générale. Je pense que d'ailleurs, on a de nombreux étudiants et étudiantes qui viennent suivre des cursus d'informatique en se disant « Ah, j'adore le gaming, j'adore les jeux vidéo », qui sont très déçus en fait finalement par la formation parce que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. C'est beaucoup plus complexe que ça en fait l'informatique. Donc déjà essayer d'expliquer un peu ce que moi je fais à un niveau personnel, c'est important.
Et tu peux nous expliquer justement ce que ton activité de recherche en informatique ?
Moi, je m'intéresse principalement donc à des images qui sont acquises par des satellites. Et ça fait très savant, mais en fait, tout le monde connaît les images satellitaires parce que tout le monde a déjà été sur Google Maps, a déjà regardé la vue satellitaire. Donc moi, je m'intéresse à ces images. Et quand je dis que je m'intéresse à ces images, en fait, c'est que je les analyse. Et donc, j'essaye d'extraire des informations qui vont être utiles pour des utilisateurs à la fin. Et alors, moi, je m'intéresse à un type d'application qui tourne autour de la végétation et en fait, c'est détecter dans les images satellitaires automatiquement les différentes cultures qui ont été plantées par les agriculteurs dans des zones plus ou moins larges. Donc, on pourrait par exemple penser au niveau à l'échelle de la France.
Et où est-ce que tu les trouves, ces images satellitaires ?
Ces images, elles sont stockées sur Internet. Les images que j'utilise, moi, c'est des images qui sont accessibles par tous et toutes, c'est-à-dire des images qui sont gratuites. C'est les images issues du programme Copernicus, c'est des images Sentinel, plus particulièrement Sentinel 2, les images que je regarde. Et donc, elles sont accessibles de tous. Hein. Et ça, sans difficulté particulière, entre guillemets, hein, forcément, il faut savoir où aller les chercher, sur quel site, et avoir un peu de compétences en informatique. Mais si on veut, on peut, je dirais.
Et ça veut dire quoi, analyser ces images ? Comment tu t'y prends concrètement ?
Alors là, il y aurait plusieurs, on va dire, niveaux d'analyse. Hein. Le premier, c'est je regarde l'image et puis j'essaye de voir si je suis capable de reconnaître les différentes cultures. Alors moi, sur une seule image Sentinel 2, je suis incapable de reconnaître une culture. Et même si j'avais plusieurs images, que je les regarde dans le temps, je suis pas agronome ou écologiste à la base et j'aurais beaucoup de difficultés à les reconnaître. Mais le problème, c'est que quand on cherche à analyser des images sur une grande zone, ça va prendre beaucoup de temps de faire cette analyse visuelle. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire le processus de manière automatique et pour ça, on va utiliser des algorithmes. Du coup, c'est tous les algorithmes, on va dire, issus de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir permettre de faire cette analyse automatique.
Justement, en faisant des recherches sur ton parcours, on a vu des mots comme deep learning, machine learning et là, tu nous parles d'intelligence artificielle ou IA. Est-ce que tu peux nous définir ces termes ?
Alors, pour moi, ma vision des choses, après, sûrement, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord, mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment le vocabulaire grand public. C'est le vocabulaire que les gens peuvent lire dans les médias et du coup, rattache ça à différentes formes d'intelligence, par exemple sur leur smartphone, le fait qu'on puisse reconnaître automatiquement le visage des personnes qu'on prend en photo. Derrière, ils savent que c'est un système d'intelligence artificielle. Après, il y a le jargon, on va dire, plus des scientifiques et du domaine, et donc apprentissage automatique ou machine learning et deep learning, donc moi que je traduis par apprentissage profond en français. Et en fait, ces méthodes-là, l'apprentissage automatique, c'est une certaine forme d'intelligence artificielle qui permet de réaliser certaines tâches, comme celles que j'ai décrites auparavant, donc de détecter automatiquement, par exemple, mes cultures, d'identifier automatiquement les cultures dans mes séries temporelle d'images satellitaires. Et le deep learning, en fait, c'est juste une composante ou un type d'approche du machine learning et, qui ont refait surface là dans les années 2012, qui existaient d'ailleurs déjà auparavant, mais qui se sont très fortement développés pour deux raisons, parce qu'on a eu un nombre de données de manière générale dans tous les domaines qui sont acquises et stockées, dans des grands data centers par exemple, et donc ça c'est la première raison pourquoi le deep learning s'est développé. Et la deuxième raison pour laquelle le deep learning s'est développé, c'est l'amélioration, on va dire, des outils informatiques et notamment de ce qu'on appelle les GPU, Graphical Processor Units, qui permettent de faire un nombre de calculs un grand nombre de calculs sur les ordinateurs.
On comprend bien que tu utilises ces méthodes pour analyser de manière automatique des images et pour y extraire de l'information. Mais tu nous as parlé aussi des séries temporelles d'images. De quoi il s'agit ?
Si on a une seule image satellitaire et que cette image elle a été acquise en plein hiver en Bretagne, on va sûrement avoir une image, par exemple, qui est très nuageuse et on va avoir très peu d'informations dans l'image. Alors que si on regarde plusieurs images de la même zone, ce qu'on appelle une série temporelle d'images satellitaires, et ben dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à avoir un peu plus d'informations, parce qu'on ne va pas avoir des nuages, on espère, sur toutes les images. Et puis l'autre composante qui va être très importante, c'est de pouvoir regarder en fait l'évolution et les dynamiques d'évolution. Une culture, par exemple, de blé ou de maïs, ça pousse pendant l'année, et donc les séries temporelles d'images satellitaires nous permettent de regarder cette évolution.
Après avoir parlé de son activité de recherche, on revient avec Charlotte sur son parcours. C'est après un bac scientifique avec une spécialisation en sciences de l'ingénieur que Charlotte a fait 2 ans de classe préparatoire pour suivre des cours en électronique. Et quand on parle d'électronique, on ne pense pas spontanément à l'informatique ou à l'observation de la Terre par satellite. Mais Charlotte nous explique que parmi de nombreux domaines en électronique, on trouve aussi le traitement du signal. Ce domaine regroupe les méthodes pour extraire de l'information à partir d'une observation ou d'une mesure enregistrée, comme c'est le cas pour une image ou pour du son par exemple. Et c'est dans ce domaine du traitement du signal qu'elle se spécialise en école d'ingénieur.
C'est lors de son stage de fin d'études, qu'elle réalise au CNES, l'agence spatiale française, que Charlotte commence à travailler sur des séries temporelles d'images. Puis elle poursuit en doctorat, dans un laboratoire où elle croise des écologues et des agronomes et s'enrichit de cette pluridisciplinarité. Lors de son doctorat, au-delà de l'importance du sujet appliqué à l'environnement, qui la passionne, elle insiste sur l'importance de l'équipe qui l'encadre, et en particulier de sa directrice de thèse.
C'est une jeune directrice de thèse, toujours jeune d'ailleurs, donc ça montrait aussi que voilà, c'était possible, on va dire, d'arriver à avoir un poste au niveau enseignant-chercheur, quoi. Donc ça, c'était pour moi, oui, une motivation et oui, une sorte de, si on peut dire ça, une sorte de rôle modèle, hein, parce que forcément, j'avais quelqu'un qui avait réussi à avoir le poste que je souhaitais. Et également, je pense que ce qui était important, bah, c'était de pouvoir justement discuter et d'avoir quelqu'un aussi qui est conscient de on va dire des difficultés actuelles pour les recrutements, que ça soit sur toutes les choses qu'on nous demande d'accomplir avant d'être recruté, mais également aussi sur les potentiels biais qu'il peut y avoir au niveau des recrutements.
Et c'est quoi par exemple ces biais au moment de recrutement, et selon toi comment on peut lutter contre?
Donc après, je pense qu'il y a deux types de biais, hein. Il y a ceux pour lesquelles on peut rien faire, on peut toujours faire des choses heureusement, mais je veux dire directement au moment du recrutement, sur lesquelles on peut pas agir. Hein. Si vous avez quelqu'un qui a énormément de stéréotypes dans votre jury, bon bah vous allez pas pouvoir lui enlever en 10 minutes d'entretien. Ça sera pas possible. Faudra agir, on va dire, sur du plus long terme avec des actions différentes. Mais après il y a aussi les biais dont je parlais tout à l'heure, ceux que peut-être moi je me mettais en tout cas, donc la censure, le fait de pas avoir confiance, le fait de me dire que c'était pas pour moi, le fait de me dire que j'allais pas y arriver. Bon bah ça c'est des choses sur lesquelles heureusement on peut travailler et donc c'est positif. Des biais au niveau du recrutement, là si je reviens sur les jurys, etc., il y en a plein en fait, hein. Je pense que quand on est membre d'un jury, qu'on soit d'ailleurs une femme ou un homme, on va avoir plusieurs biais, on va pas forcément interroger les candidates de la même manière que des candidats, on va pas poser les mêmes questions, on va pas creuser forcément exactement sur les mêmes points, et donc ça c'est problématique. Alors après, comment on peut lutter contre tout ça? Bah il y a certains, je sais que sur les recrutements par exemple pour l'INRIA, qui est l'institut de recherche en informatique, ils ont mis en place certains protocoles où il y a quelqu'un qui est là pour justement présenter en fait, donc un membre du jury qui présente avant de commencer l'analyse des dossiers et les entretiens, qui présentent les différents biais qui peuvent exister, donc ils en discutent, et puis c'est quelqu'un aussi qui est là pendant les auditions, qui peut faire un rappel à l'ordre si en fait une question sort un peu du cadre et qui va être ailleurs. Donc ça pour moi c'est des actions qui sont ultra positives et qui vont permettre justement de lutter, on va dire, contre les différents biais. Après je sais pas si à un moment donné, moi-même mon dossier il a été analysé avec un certain biais. J'en sais rien, j'espère pas, mais probablement de toute manière, hein, parce que c'est présent qu'on le veuille ou pas, quoi.
Après sa thèse, Charlotte part en Australie pour faire un post-doctorat de 2 ans, c'est-à-dire un contrat de type CDD au cours duquel elle peut développer un projet de recherche. Son post-doctorat lui permet de se confronter à un nouvel environnement et à une nouvelle équipe. Cette expérience lui apporte beaucoup. Elle lui permet d'affirmer son virage de l'électronique vers l'informatique et lui fait gagner en confiance. Elle veut désormais, elle en est sûre, décrocher un poste d'enseignante-chercheuse en informatique. Mais elle n'a pas toujours eu cette confiance en ses capacités ou sa légitimité.
Alors, je pense que le point de départ pour moi, c'est justement une expérience, un moment manqué, on va dire, à la fin de mon doctorat, quand je cherchais en fait un post-doctorat. Donc, j'ai dit, j'avais postulé également sur un post-doctorat aux Pays-Bas, et en fait, sur ce post-doctorat-là, j'ai été classée deuxième. Donc, il y avait eu un long processus de sélection. On était d'abord 4 ou 6, et puis après on n'était plus que 2, et j'ai fini deuxième. Et quand j'ai demandé en fait pourquoi, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que je pouvais faire, on va dire, améliorer pour mes futurs entretiens pour les post-doctorats. Et donc, il y avait quelque chose d'un point de vue technique, une compétence que j'avais pas. Bon, là, ça, c'était pas grave. Mais il y avait un deuxième point qui était, en fait, on t'a demandé à un moment ce que tu voulais faire avec nous, quels étaient les axes de recherche que tu voulais développer, et tu nous as pas trop répondu. Et c'était vrai, j'avais pas trop répondu parce que j'ai pas osé répondre, parce que j'avais pas confiance que, en gros, la recherche auquel je pensais était légitime, que j'étais, que c'était de la bonne recherche, entre guillemets, ce que je voulais faire sur le post-doctorat. Et donc, c'est ce qui m'a causé, en fait, le post-doctorat qu'initialement, je voulais. Et après, j'ai postulé sur celui en Australie. Et là, j'ai dit, ah non, je ne veux pas refaire la même erreur. Et du coup, je pense que ça m'a boosté. Je pense que, pour le conseil, clairement, c'est de ne pas se censurer, quoi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise recherche. Je pense qu'il faut, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est ce que j'aurais... je pense que je l'avais déjà entendu, mais que j'arrivais pas à l'appliquer pour moi-même, mais vraiment la question de la censure, quoi.
À la suite de ton postdoc, tu as obtenu un poste d'enseignante-chercheuse en informatique à l'Université de Bretagne Sud à Vannes. Et aujourd'hui, tu es responsable du Master Copernicus in Digital Earth, qui vise à former des professionnels qui utiliseront des données satellitaires issues du programme européen Copernicus pour différentes applications. Ce sont des petits effectifs. Pour la première promo l'an dernier, il y avait 5 étudiantes et étudiants, et pour cette deuxième année, c'est une promo de 8. Tu te retrouves donc aujourd'hui du côté du jury quand il s'agit d'analyser les dossiers de candidature pour le master. Es-tu particulièrement vigilante à l'équilibre femmes-hommes lors des recrutements, et aussi vigilante à ne pas reproduire les biais d'analyse liés au genre ?
on peut faire attention, on va dire, à différents facteurs, parce que en effet, c'est un master international, donc avec des recrutements d'étudiants internationaux, et donc du coup, des fois, on a des candidatures de candidates, bah par exemple, qui n'ont pas exercé, travaillé dans un organisme ou dans une entreprise depuis une année, deux années, trois années. Et bah, c'est vrai que des fois, on peut se dire aussi en fonction du pays, voilà, est-ce que à côté, elle a quand même essayé de faire autre chose pour, on va dire, pallier à ce manque ? Est-ce que le fait qu'elle n'a pas été embauchée, bah, c'est parce qu'elle a subi des discriminations de par son genre, etc. Donc ça, c'est des choses auxquelles on va faire attention. Et donc, à tel point que pour la première année, la première cohorte qu'on a eue d'étudiants qui vient d'être diplômés, ben en fait, on avait 5 étudiantes. Donc, je pense que niveau parité, on était même un peu trop fort. Là, pour la deuxième cohorte qui arrive, on est à une parité 50-50. Et donc, c'est bien parce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça intéressant déjà d'un point de vue, on va dire, collectif, global, de pouvoir avoir un groupe qui est mixte, que ça soit au niveau de la diversité des étudiants, des pays d'origine des étudiants, mais également au niveau du genre. Et après, pour les prochaines cohortes, on essaye de faire attention. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que on reçoit un certain nombre de candidatures. Et donc, ce nombre de candidatures, il est souvent, on va dire, beaucoup plus élevé sur le nombre de candidats que de candidates. Et ce que j'essaye de ne pas faire, c'est de me dire, on va respecter du coup le pourcentage de candidats versus le pourcentage de candidates. Mais en fait, comme on s'en sort plus généralement quand on est une femme, forcément, la conséquence, c'est qu'on reçoit moins de dossiers de candidates. Donc si on respecte le pourcentage initial, pour moi, en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. C'est déjà un biais. Donc, parce que généralement, en fait, les candidatures qu'on reçoit de femmes, elles sont beaucoup plus mûries et réfléchies avant de candidater, et donc elles ont beaucoup plus de compétences, tout simplement, quoi.
Et dans ton cas, parmi tes collègues, est-ce qu'il y a un équilibre ?
Non, absolument pas d'équilibre actuellement. Je pense qu'on doit être à 20% au niveau du laboratoire. J'ai une collègue ici à Vannes qui a été recrutée en tant qu'enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées et statistiques. Je crois que c'est encore moins le pourcentage de femmes qu'en informatique. Donc voilà, sur des domaines scientifiques, ça va être très, très faible. Je pense qu'évidemment, il y a des domaines de recherche où c'est plus équilibré, mais en tout cas, pas ceux dont je suis proche, quoi. Où là, il y a une forte disproportion femmes-hommes. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que plus on avance dans la carrière, moins il y a de femmes. C'est-à-dire que là, moi, je suis maîtresse de conférence, donc enseignante-chercheuse, et donc c'est le premier niveau, on va dire, pour un poste de permanent. Le deuxième niveau, c'est professeur des universités, et donc là, le pourcentage chute drastiquement en informatique. C'est en progrès, mais on voit quand même encore de la censure, parce que typiquement, pour être professeur des universités, il faut passer donc l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, et donc ça veut dire réécrire un dossier décrivant la recherche, décrivant la direction de nos futures recherches, hein, et qui va être évaluée. Et donc ça, c'est un travail encore conséquent, et que bon nombre de femmes se disent qu'elles n'ont pas le matériel nécessaire pour écrire cet HDR, qu'elles ont pas le temps peut-être aussi de l'écrire, mais voilà.
Pour décrire ce dont Charlotte nous parle, cette proportion des femmes qui chutent au fil d'une carrière académique classique, on utilise la métaphore du tuyau percé, traduction de l'anglais « leaky pipeline ».
Cette image, bien que schématique, illustre bien la situation. La carrière académique des femmes est semée d'embûches, qui sont, dans la métaphore du tuyau percé, schématisées par des trous dans le tuyau, trous par lesquels les femmes tombent, ou plutôt sortent du parcours académique classique. En vérité, leur carrière s'arrête ou est ralentie.
Des hommes aussi interrompent leur carrière académique, mais beaucoup moins en proportion. Par exemple, en France, les femmes représentent 44% des diplômés en doctorat elles ne sont plus que 38% des chargées de recherche ou maîtresses de conférences. Au plus haut poste de direction, elles ne sont plus que 22%. Et l'écart est encore plus fort dans les filières liées aux sciences et techniques.
Si on regarde plus précisément les chiffres en informatique, les déséquilibres sont très nets. D'après l'INSEE, les femmes représentent en France 30% des salariés du secteur numérique et seulement 15% sur des fonctions techniques.
Charlotte nous explique que l'informatique n'a pas toujours été et n'est pas dans tous les pays un domaine réservé aux hommes. C'est lors d'une conférence d'Isabelle Collet, informaticienne et enseignante-chercheuse à l'Université de Genève, qu'elle en a beaucoup appris sur le sujet et partage quelques exemples avec nous.
Et donc, elle nous expliquait que dans certains pays, en fait, on n'associe pas du tout les mêmes valeurs à l'informatique. Et typiquement, en Malaisie, c'est un métier très féminin parce que on peut travailler de la maison, ça ne demande pas d'effort physique, c'est pratique. Donc, du coup, on peut travailler de la maison et donc, si on a des enfants, c'est très pratique. Et donc, j'ai trouvé ça très... ça ne m'a pas surprise d'apprendre ça parce que moi, je n'ai jamais considéré, en tout cas... par moi-même, que c'était un métier qui serait réservé exclusivement aux hommes. Et du coup, je trouve cet exemple vraiment bien comme un peu un contre-exemple à donner pour dire, c'est vraiment une question de valeur qu'on associe au domaine et c'est quelque chose qui peut vraiment changer. Ce qui s'est passé dans les années 80, c'est l'ordinateur personnel et toute une campagne publicitaire à destination en fait des hommes, des jeunes hommes, des garçons, et qui a fait que en fait l'informatique est devenue un domaine d'excellence comme pouvait l'être auparavant la médecine ou certaines composantes de la médecine. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à déserter, on va dire, les femmes par exemple en recherche ou même dans le privé.
Tu participes à l'organisation d'un atelier appelé un workshop qui est organisé lors d'une conférence scientifique. Alors, une conférence, c'est un moment où des chercheurs et chercheuses d'un domaine se réunissent pour présenter leurs travaux, rencontrer leurs homologues et initier de nouveaux projets collaboratifs. Dans l'organisation du workshop auquel tu participes, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Et qu'en est-il de la situation dans les conférences en général dans ton domaine?
Dans l'organisation, je suis la seule femme, c'est que des chercheurs et moi. Et après, au niveau de l'organisation, ce que je trouve intéressant, donc notamment pour ce workshop, c'est qu'on a des keynotes et donc des chercheurs qu'on invite spécifiquement pour le workshop à présenter leurs travaux. Et donc là, pour moi, ce qui est important, c'est de faire attention qu'on n'ait pas que des hommes qui vont être keynotes. Ça aussi, c'est un autre biais en recherche. On invite très peu souvent des femmes à présenter leurs travaux. On invite assez rarement les femmes à être keynote, ce qui font qu'elles sont moins connues en fait, parce qu'elles présentent moins leurs travaux et donc ça a un effet un peu vicieux parce que du coup on présente pas ses travaux, donc on n'est pas connu, donc on n'est pas invité, etc.
Est-ce que ces conférences ne seraient pas justement le bon moment pour parler de déséquilibre entre le nombre d'hommes et des femmes intervenantes? D'ailleurs, peut-être qu'en informatique, il existe déjà des moments dédiés aux questions de genre pendant les conférences.
Donc sur les conférences moi auxquelles je participe, dont une, il y a un moment qui est dédié, où on a un repas où c'est pour les femmes qui travaillent justement en télédétection, en géoscience, avec des données issues de l'observation de la Terre. Donc c'est un moment de se retrouver. Mais là c'est plus un moment de partage, donc c'est pas le moment où on fait de la médiation sur le sujet. Et je pense que oui, ça peut être intéressant. Des fois, le problème que je vois, c'est que finalement, si c'est organisé, en marche de la conférence, en fait, les personnes qui vont y participer, généralement, c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées. C'est pas grave, c'est bien de continuer à être sensibilisé, d'échanger sur le sujet. Il y a pas de problème à ça, mais ça veut dire que les personnes qui sont pas sensibilisées et/ou réticents à être sensibilisées ne le seront toujours pas.
Et au-delà de ces moments de partage, est-ce qu'il existe justement d'autres mécanismes? Est-ce que tu en connais?
Avec certains instituts, il y a en place un système de mentorat qui est mis en, en place pour des jeunes doctorantes soient mentorées par des chercheuses qui soient plus expérimentées et justement avec lesquelles elles peuvent parler tout ce dont elles veulent parler, mais notamment de la carrière. Sur Vannes, là, j'ai une collègue qui est en charge d'une commission aussi au niveau d'une école d'ingénieurs. Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place avec des interventions, par exemple, des doctorantes du laboratoire au niveau des collèges et donc des collégiennes pour leur présenter, en fait, par exemple, qu'est-ce que c'est Python, donc un langage de programmation, comment ça marche, leur faire voir que c'est accessible, en fait, que c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et, ce qu'elles reportent, c'est qu'au début, je ne vais jamais y arriver. Puis à la fin, elles font plein de choses toutes seules et elles sont super contentes parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Donc, il y a ce genre de mécanismes qui sont mis en place, que ce soit au niveau des collèges ou des lycées. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Quoi. Ou l'inverse, d'emmener un groupe de collégiens, collégiennes ou uniquement de collégiennes en non-mixité à l'université pour que, justement, des enseignantes chercheuses présentent leur travail. Enfin, voilà, il y a plein d'échanges qui se font et ça fait partie également de nos missions, on va dire, un peu de médiation, de présenter notre travail. On a aussi une charge en tant qu'enseignant-chercheur de vulgarisation du travail. C'est pourquoi je ne suis pas toujours très bonne, mais voilà, j'essaye. Et donc, ça peut être à destination des plus jeunes, du grand public, etc.
Et dans ces comités, c'est uniquement des femmes ou il y a aussi des hommes qui s'emparent de la question ?
Heureusement, il y a aussi des hommes que ça intéresse, que ça inquiète, qui n'ont pas envie d'être dans ce milieu-là, parce qu'en fait, c'est pas forcément mieux pour les hommes que pour les femmes, hein, d'être dans un milieu où on est en manpower, entre guillemets, quoi. Il y a des hommes qui veulent aussi être tranquilles et puis être bien avec tous leurs collègues, quoi. Donc, je pense que c'est pas forcément plus facile d'être dans ces milieux pour les hommes, quoi. C'est pas le même genre de discrimination subie, mais ça en reste pas moins pas facile, je pense.
Voir que des hommes s'emparent de la question du genre, ça nous fait terminer cet entretien avec un petit sourire. Car la parité, c'est bel et bien une question qui nous concerne toutes et tous.
Le domaine du numérique prend de plus en plus de place dans nos vies. Et il est important, et même essentiel, de partager les postes et les prises de décision entre hommes, femmes et personnes non genrées. Mais aussi avec toutes les catégories de personnes discriminées ou invisibilisées.
Comment les solutions numériques de demain pourront être inclusives si les équipes ne le sont pas? Et pour revenir à l'observation de la Terre et à l'usage d'images satellitaires pour l'environnement, on a besoin de tous les cerveaux pour répondre aux défis environnementaux et écologiques, d'aujourd'hui et de demain.
Women in Copernicus Podcast est une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaëlle en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio Syllab. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de semaine paires à 18h sur Syllab, la radio sauvage.